Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
Du suspense. De l'émotion. De l'humour. Sine qua non, du cinéma sinon rien.
Bonjour et bienvenue à tous sur Radio Campus 90.8 pour l'émission Sine qua non du mois de mai. Nous enregistrons juste après l'annonce du palmarès du dernier festival de Cannes. Nous en dirons un mot car nous avons quelques films du festival au programme. Programme chargé ce mois-ci. On n'a pas réussi à se décider, donc on a gardé 13 films qu'on a vus en commun. On sera un petit peu plus bref sur certains qui ont pu sortir de l'affiche puisque ce sont des films sortis entre la fin avril et la mi-mai. À mes côtés pour commenter ces films, Jean-Pierre.
Bonjour toutes et tous.
Et à la technique et pour commenter les films, Florence.
Bonjour.
Adrien arrivera en cours de route. On commence donc sans plus attendre avec le blockbuster du mois. Il s'agit d'Avengers Endgame.
J'ai l'impression que ça remonte à un millénaire. Je me suis extirpé de cette caverne. Je suis devenu Iron Man. Je me suis rendu compte que je t'aimais. Je sais que j'avais dit plus de surprises, mais j'espérais vraiment pouvoir t'en faire une dernière.
Le monde a tellement changé. Ce qui est passé est passé. Il faut faire du mieux qu'on peut. Et parfois, la meilleure solution, c'est de tout recommencer.
Avengers Endgame, alors je n'ai pas compté, mais je suis sûre que Jean-Pierre vous rappellera le numéro de ce film dans la saga des Avengers. Il est réalisé...
Cinquième, je crois.
Cinquième.
Il est réalisé
par...
Ouais,
je n'ai pas très précis ça, Jean-Pierre. Réalisé par Joe et Anthony Russo, avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, un beau casting donc. Cette fois, le méchant Thanos ayant anéanti la moitié de l'univers, les Avengers vont devoir faire front. C'est en tout cas le 22e film des studios Marvel donc, qui met en scène ces super-héros. Florence, qu'en as-tu pensé ?
Ben, je trouve que c'est tout à fait fidèle à la lignée des autres Avengers, c'est-à-dire qu'il y a de l'humour pas très fin, des effets spéciaux magnifiques, des images superbes. C'est vraiment très fidèle à ce qu'ils ont toujours fait, donc ça se réinvente pas du tout. J'ai trouvé que ça manquait de logique également, j'ai trouvé que ça rendait très pénible l'histoire pour moi. Notamment le fait qu'il y ait beaucoup de voyages dans le temps, ce que j'adore, mais là, ils n'ont absolument pas traité les conséquences des voyages dans le temps. Enfin, seulement pour certains personnages, on va dire, mais les autres, ça n'a aucun impact.
Donc, ils vont dans le passé, ils changent des choses, et puis quand on les retrouve dans le présent ou dans le futur, rien n'a changé.
Bah, pas des masses. Enfin, ça ne colle pas, ça ne colle pas. Enfin, pour moi, ça ne collait pas, en tout cas. Donc voilà, bon, ben, Endgame, ouais, je crois que pour moi, c'est le cas.
Voilà. Jean-Pierre.
Oh là là, bah, c'est-à-dire, c'est un film qui dénote, hein, ou qui est fait pour faire un passage entre l'ancien et le nouveau. Hein. Alors, c'est la suite, effectivement, d'Avengers Infinity Wars, où la moitié de l'humanité disparaissait, dont certains super-héros, mais pas ceux qu'on aime, pas les principaux. Et en plus, le studio Disney, hein, qui fait les Marvel, a décidé de changer un petit peu, de renouveler son panel, de chercher de nouveaux héros. Donc, je ne vais pas vous dire, bien entendu, qui meurt à la fin, parce qu'il ne faut pas. On me ferait les gros yeux dans le studio. Mais il y a certains personnages qui n'étaient pas disparus dans le précédent, qui disparaissent dans celui-là, dont un qu'on aime vraiment beaucoup, mais je suis sûr que vous voyez qui c'est. Et puis, il y a beaucoup d'humour. Moi, je trouve qu'il y a beaucoup d'humour quand même, parce qu'on retrouve ces héros complètement déboussolés, ils ne savent pas quoi faire avant de trouver cette astuce de voyage dans le temps qui est peut-être pas toujours très réussie, mais qui donne lieu à des séquences amusantes. Et le dieu Thor, par exemple, a sombré dans l'alcool. Il vit comme un hippie. Il a son estomac qui déborde. Le Capitaine America a perdu son bouclier. Enfin, le Tony Stark est perdu dans l'espace. Tout ça est assez amusant. Et puis ça, il y a des longueurs peut-être, mais c'est des longueurs qui sont justifiées parce qu'on voit effectivement plus que dans d'autres films la vie personnelle de ces héros. Ils cherchent à bouffer, ils mangent un sandwich. Enfin, ça. Hulk, il voit plus très bien, il porte des lunettes. Tout ça est très amusant, mais c'est vrai que ça signe la fin d'une série en attendant la suivante. Mais moi, en tout cas, je me suis beaucoup amusé.
Ah, parce que c'est censé être le dernier quand même, non?
Le dernier Avenger, mais certains des héros reviendront dans des séries principales.
Dans des reboots.
Dans des reboots, voilà.
Bien, donc Avengers Endgame est toujours à l'affiche au Pathé et à la Nef, si Jean-Pierre vous a convaincu. On change de genre avec le nouveau film d'André Téchiné, L'Adieu à la nuit, qui s'intéresse à ce thème très à la mode, hein, des jeunes Français partis en Syrie.
Il y a si longtemps qu'il n'est pas venu.
Tout va bien, mon chéri?
Toujours pas de réseau ici?
Je voulais te dire que ça ne me dérangerait pas du tout, hein, que Lila dorme ici avec toi. Je trouverais même ça normal.
Et je sais que tu trouveras ça normal, mais pas moi. Est-ce que t'es heureuse?
Oui, je suis heureuse de la vie que je mène. Surtout quand tu viens me voir.
Subhana Rabbi al-Hadim. Subhana Rabbi al-Hadim. Allahu Akbar.
Tu m'as vu?
Mais je savais pas que...
Je savais pas que quoi?
Que tu étais croyant.
Maintenant, tu le sais.
Bah là, il manquait exactement 6000. Et puis, arrête de me casser la tête avec ma grand-mère. Je veux rien lui demander.
Je t'aime, grand-mère. Peut-être que je ne te l'ai pas assez montré, mais je t'aime beaucoup. Merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Je ne t'oublierai jamais.
C'est grave de faire ça, Alex. D'abord voler, et en plus, ta propre famille, c'est un double péché.
Alors, on fait quoi? On part pas? L'argent qui nous manque, je peux pas l'inventer, Lila.
Tu feras quoi si je meurs?
Tu pars.
Qu'est-ce que tu vas foutre à Istanbul? Tu vas passer la frontière?
Ouvre.
Non.
L'Adieu à la nuit, c'est le 26e film d'André Téchiné. C'est la 8e fois qu'il fait tourner Catherine Deneuve. Deuxième fois qu'il réemploie aussi Cassé, Mothe et Klein, qu'on voit beaucoup dans le cinéma français en ce moment, et qui était déjà dans son film Quand on a 17 ans, en 2016. Donc Cassé, Mothe et Klein joue un petit-fils qui s'est radicalisé, hein, qui s'est déjà converti à l'islam, puis radicalisé, qui veut partir en Syrie avec sa petite amie. Sa grand-mère, incarnée par Catherine Deneuve, le comprend assez rapidement alors qu'il vient lui rendre visite et va essayer de l'empêcher de partir. Je m'arrête là pour le résumé du film. Comme beaucoup de films sortis dernièrement, donc on retrouve ce thème des jeunes Français qui veulent faire leur djihad. Là, c'est vraiment très centré sur la grand-mère et les tentatives qu'elle va faire pour l'empêcher de partir. C'est ça qui est peut-être un petit peu nouveau dans ce film. En tout cas, la manière qu'elle va employer pour l'empêcher de partir, je ne crois pas l'avoir vu traité comme ça dernièrement, que ce soit dans Exfiltré, ou dans Le Ciel attendra, ou dans Les Cowboys, ou souvent dans les films là-dessus, le jeune est déjà parti. C'est rare qu'on ait le film sur l'avant. Voilà, moi j'ai trouvé que c'était réussi, assez sobre, assez juste. Je trouve Deneuve très bien, Cassé, Mothe et Klein aussi. Je regrette peut-être juste, comme dans beaucoup de films sur ce sujet dernièrement, que le personnage du petit-fils ne soit peut-être pas assez travaillé. On manque un petit peu d'éléments pour comprendre vraiment comment il a pu changer, à quel moment il a basculé. Voilà, c'est ma réserve, mais c'est un film que je recommande. Jean-Pierre.
Oui, moi aussi, je le recommande parce que c'est un sujet non pas à la mode, mais c'est un sujet qu'il faut traiter parce qu'il fait partie de la réalité de tous les jours, malheureusement. Alors c'est vrai qu'on peut regretter effectivement qu'on ne comprenne pas les motivations profondes de ce jeune homme et en même temps, on les comprend pas, en fait. Dans la vie, on les comprend pas. Pourquoi les gens se radicalisent, on sait pas. Et ils arrivent pas. Déradicaliser quelqu'un, c'est très difficile. Les gens qui s'en occupent, les services sociaux disent que c'est quasiment impossible. Alors, qu'est-ce qu'ils ont dans la tête? Quel cancer ils ont dans la tête? On sait pas. Alors là, ce film, effectivement, d'un certain côté est frustrant, mais de l'autre côté, il ne peut être que frustrant. À part ça, c'est un très bon Téchiné, filmé comme d'habitude de manière très sobre, avec une caméra fluide. Et puis, il y a une interprétation effectivement magnifique de Catherine Deneuve qui est vieille sans l'être mais qui est brune au lieu d'être blonde et qui est très touchante en même temps dans sa manière de pas vraiment vouloir la réalité, de se battre pour qu'il parte pas. Évidemment,
et
on ne va pas dire que voilà
une
très
fin
bien.
Qu'on ne dévoile
pas. Non, bien sûr, tout le monde la connaît, cette fin. Bref, c'est un film, effectivement, à recommander, sans aucun doute.
Bon, Jean-Pierre vient nous donner son avis. Florence.
Moi aussi, je l'ai trouvé vraiment très émouvant. J'ai trouvé que les acteurs étaient vraiment incroyables et m'ont vraiment beaucoup touchée, bouleversée. Catherine Deneuve est vraiment très bonne dans ce rôle de la grand-mère qui voit le vernis de son petit-fils qui s'écaille petit à petit et qui essaye de l'aider, mais sans lui nuire, ce qui est très difficile dans cette situation, parce que si elle le signale, il va avoir des problèmes de justice. Si elle fait rien, il va partir et il risque de mourir. Enfin, elle est dans un dilemme terrible et c'est ça qui est mis en avant dans le film. Et c'est ça que j'ai trouvé vraiment intéressant. Après, je suis pas d'accord avec vous quand vous dites qu'on comprend pas les motivations du petit-fils.
Je pense que c'est par amour.
Non, je pense qu'il a subi un drame familial quand même grave. Et voilà, une grosse perte dans sa vie. Et ça,
et qui s'est tourné vers la religion.
Bah, peut-être, en tout cas, il y avait
mais
peut-être quelque chose.
Mais pourquoi radicaliser?
Oui, parce que c'est une raison, effectivement.
Il suffit juste des fois d'avoir une fragilité pour pouvoir se faire harponner plus facilement. Donc,
certes.
Je pense que ça peut arriver vraiment à n'importe qui. Ça se voit dans les stats et compagnie. C'est souvent des gens sans problème ou quoi que ce soit. Donc je pense que là, justement, avec ce gros trouble qu'il a eu, il était plus fragile. Enfin, moi, je trouve que ça s'explique tout à fait et j'ai pas trouvé ça déconnant.
D'accord.
En tout cas, je vous le conseille.
Moi je disais un petit peu frustrant parce que parfois on aimerait qu'il en dise un petit peu plus sur ses motivations. Mais bon, c'est vrai que j'ai remarqué que souvent c'était le cas dans les films sur le sujet.
Sinon, ça partirait en drama, alors que là, au moins, ça a gardé un côté un peu sobre.
Peut-être. On est quand même d'accord,
oui,
tous les trois, sur le fait que c'est un film à voir. L'adieu à la nuit d'André Téchiné qui passe encore à la nef. On enchaîne avec mon coup de cœur du mois. Il s'agit du film français d'Audrey Diwan, Mais vous êtes fou.
Elle respire plus. Romane, elle respire plus. Romane,
écarte-toi pas. Elle est brûlante, appelle l'ambulance. On a fait une batterie d'examen, des analyses de sang, un scanner.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Mais dites-nous.
On a trouvé des traces de cocaïne dans son organisme.
Quoi? Mais il y a forcément une erreur.
Il n'y a pas d'erreur.
C'est absurde, elle est juste à la maison, à l'école. Tu crois qu'il y a de la drogue à l'école?
Je
travaille pour la brigade des mineurs. Vos enfants vont être placés, madame.
Quoi?
C'est l'aide sociale à l'enfance qui va s'occuper d'eux.
Mais j'ai rien fait, moi. Vous pouvez pas prendre mes enfants. Je veux voir mes enfants!
C'est moi.
C'est toi, quoi? Tu penses à toi? Depuis quand?
Des années.
Sérieux, monsieur Clémenti?
Je les ai pas drogués.
Destitution des droits parentaux, prison ferme, alors on leur dit quoi?
Il faut qu'on trouve l'explication, c'est peut-être passé par l'air.
Tant que vous resterez en couple, vous aurez l'air de soutenir votre mari.
Ouais, il faut qu'on sépare aussi ça.
Ouais, juste un truc. You never miss your world. Tu me crois? Until your
world run dry. On nous ment depuis des années, non plus j'ai rien vu.
Je veux pas qu'on dise du mal de lui aux filles.
Pour nous, c'est comme s'il était mort.
Et si c'était ton fils, tu penses pas qu'il faudrait l'aider, le soigner?
Si on dit que c'est lui le coupable, t'auras plus de chances de récupérer les filles.
Moi, mon mec, il me ferait ça, franchement, j'hésiterai pas.
Eh oui, mais si ce mec, c'est Pio Marmaille, quand même, on peut un peu hésiter. Je rebondis sur la fin de la bande-annonce de « Mais vous êtes fous », titre dû à la chanson de Benny B qu'on entend à un moment donné dans le film, à un moment où le héros chante sur cette chanson en boîte de nuit, je crois. Voilà, donc titre qui peut sembler un petit peu bizarre pour une histoire qui est tirée d'un fait divers. C'est effectivement arrivé à un couple. L'homme prenait de la cocaïne ou une autre forme de drogue, hein, je ne suis plus très sûre. Et sans le faire exprès, il a drogué sa famille tout simplement par la peau, en fait. Donc là, le couple incarné par Pio Marmaille et Céline Salette se retrouve en plein drame familial, puisque l'une de leurs deux petites filles fait un malaise, est hospitalisée, elle s'en sort, mais on découvre qu'elle a des traces de cocaïne dans l'organisme. Je ne dévoile rien qu'on ne sache pas très rapidement dans le film. Hein. Et du coup, c'est une épreuve pour toute la famille, pour le couple, puisque les enfants risquent d'être placés, il y a un procès. Elle, si elle veut garder ses enfants, est obligée de se désolidariser de son mari, qui pourtant était le gendre idéal, hein, très beau, donc incarné par le magnifique Pio Marmaille, dentiste.
Ah, mais on sait que tu es amoureuse, il n'y a pas de doute.
Ah, bah là. Oui. Donc dentiste s'occupant très bien de ses filles, etc. Donc la cellule familiale explose et on voit bien malgré tout que cette femme aime son mari et qu'elle a envie de tout faire pour sauver leur couple. Bref, j'ai trouvé que c'était un film très très fort, notamment grâce aux interprètes, parce que Céline Salette est vraiment exceptionnelle comme toujours. Ils nous entraînent avec eux, on y croit, c'est vraiment une histoire extrêmement touchante et sur un thème que je n'ai moi jamais vu traité. Enfin, j'avais jamais entendu parler de ce genre d'histoire en tout cas, donc j'ai été aussi assez surprise. Et vraiment, je le recommande vivement. Je sais qu'il passe encore à la nef. Florence, tu n'as pas intérêt à en dire du mal.
C'est bon, je suis d'accord. J'ai trouvé aussi que les acteurs étaient vraiment très bons. J'ai trouvé que cette spirale de l'enfer était très bien amenée dans l'histoire, où on voit vraiment comment leur petit château s'effondre comme ça d'un coup, avec leur vie parfaite au demeurant. Et le scénario, donc, en effet, est très original, c'est très fluide. Tout se fait avec beaucoup de logique. J'ai trouvé que c'était également beaucoup plus tourné donc, sur le drame parental plutôt que sur les enfants, qui sont accessoires, on va dire, même à l'histoire. Mais c'était pas gênant, j'ai trouvé ça très bien. C'est vraiment un film qui est sur les questions de confiance dans le couple, oui. Du pardon, du comment on fait pour se reconstruire après un tel drame. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et ils ont réussi à faire ça sans trop tomber dans le pathos, sans être trop caricaturaux. Justement, c'est hors des codes, hors de tout ce qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Donc...
Et pourtant, c'est un premier film, hein, je ne l'ai pas précisé, c'est le premier film d'Audrey Diwan, qui est écrivain et journaliste, sinon par ailleurs. Okay. Autre chose à ajouter, Florence ?
Non, ce sera tout, allez le voir.
Eh bien, on vous le recommande, voilà. Mais vous êtes fou d'Audrey Diwan qui passe à la nef. On continue avec cette fois un film, une fois n'est pas coutume, macédonien. C'est Dieu existe, son nom est Petrunia. Dieu existe, son nom est Petrunia, c'est le cinquième film de la réalisatrice macédonienne Teona Strugar-Mitevska. Elle s'est inspirée d'un fait divers survenu en 2014, puisque en Europe de l'Est, il y a une tradition dans la communauté orthodoxe. Hein, le jour de l'Épiphanie, un prêtre lance une croix dans une rivière, un fleuve, et tous les hommes de la communauté ont le droit de se jeter à l'eau pour essayer de repêcher la croix. Et celui qui s'en empare a normalement beaucoup de bonheur et de prospérité qui lui sont promis dans l'année à venir. Sauf qu'en 2014, c'est une jeune femme qui s'était lancée à l'eau et qui a attrapé la croix. Donc c'est Petrunia dans le film, ça se passe à Stip, une petite ville de Macédoine. C'est vraiment le point de départ de ce film qui est assez rigolo finalement, parce qu'on voit l'entêtement de cette jeune femme. C'est aussi un film féministe hein, qui montre bien que les femmes sont souvent délaissées, mises de côté dans ces communautés-là. Et c'est ce que revendique Petrunia en gardant cette croix et en voulant la garder aller absolument jusqu'au bout. Donc le sujet n'est pas inintéressant, pourrait être à la fois donc drôle, intéressant, militant, sauf que ça tourne vite court en fait. Tout ce que je vous ai dit là se passe dans les premières minutes du film, et la majorité du film finalement c'est l'incarcération de la jeune femme, enfin la garde à vue de la jeune femme, et là ça devient très très lent. Moi je me suis beaucoup ennuyée. On a une série de face à face entre elles, des responsables religieux, des policiers, voilà. Donc bon, j'ai du mal à le recommander au final face à cet ennui qui m'a gagné. Jean-Pierre,
Je suis absolument d'accord avec toi, même si je suis peut-être un tout petit peu plus positif, ceci grâce surtout à l'interprétation féminine d'une jeune actrice qui vient du théâtre, qui s'appelle Zorica Noutcheva, je ne sais pas si je prononce bien. Sa mère la brime, elle lui dit qu'elle est grosse et moche, alors elle est peut-être grosse mais certainement pas moche. Elle dégage une grande énergie en même temps qu'une grande tendresse, et je trouve que ça sauve pas mal le film. Et c'est vrai que comme dans les westerns où le héros est prisonnier dans la cellule, il ne se passe plus rien, il y a des gens qui protestent un peu à l'extérieur, mais je pense que ça aurait fait un excellent moyen métrage de 20-25 minutes. C'est vrai qu'un long métrage, c'est quand même un peu long, comme l'éternité, surtout vers la fin.
Eh bien, nous sommes donc d'accord. Alors, si vous voulez quand même vous faire votre avis, Dieu existe, son nom est Petrunia, passe au cinéma Le Club. On enchaîne avec un film franco-belge. C'est le film d'Olivier Massé de Passe, Duel.
Maxime a eu un grave accident hier.
C'était un accident.
Tu n'aurais jamais dû le quitter, tes yeux.
Elle me fait peur, cette femme. Elle va se venger sur Théo.
Je ne veux plus que tu utilises ce passage, d'accord?
Là, c'est pas elle qui me fait peur.
Tu me crois pas? Elle te manipule et tu le vois pas?
Je devrais te faire enfermer. Complètement le sens de la réalité.
Duel d'Olivier Massé de Passe est un thriller adapté du roman de Barbara Abel intitulé La dernière haine. On est au début des années 60. Deux femmes, deux voisines sont très amies. Elles vivent dans la banlieue de Bruxelles. Sauf qu'un jour, le fils de l'une meurt accidentellement sous les yeux de l'autre. Se noue alors une relation très ambiguë entre les deux femmes. En fait, à la fois encore d'amitié et de compassion, à la fois de jalousie, voire de haine. Celle qui a été témoin de l'accident pense que l'autre lui en veut et qu'elle veut se venger. Je pense qu'il ne faut pas en dire beaucoup plus, n'est-ce pas Jean-Pierre ?
Aïe, 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 mais qu'est-ce qu'on peut dire ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire ?
Voilà, donc c'est vraiment un thriller, moi, qui m'a rappelé des films comme La main sur le berceau, par exemple, hein, avec une femme qui cherche à s'emparer de l'enfant de l'autre, ou en tout cas dont on se demande si elle ne cherche pas ou à s'en emparer ou à lui faire du mal. Ça rappelle beaucoup L'empreinte de l'ange aussi avec Catherine Froh. J'ai trouvé que c'était très efficace, que c'était un très bon thriller. La tension est là jusqu'au bout. On se demande vraiment jusqu'au bout avec l'héroïne si sa voisine lui en veut ou non. Et puis, je note aussi une excellente interprétation donc, de la mère qui est témoin du drame, incarnée par Verle Beatens, moi que j'avais découverte dans Alabama Monroe, et que je trouve encore très bien ici. Jean-Pierre.
Oui, mais je suis à peu près d'accord avec toi, sauf que contrairement au film précédent, je suis un petit peu moins optimiste, parce qu'on peut quand même le dire, il y a les morts qui s'accumulent à partir de la deuxième moitié du film. Un suicide, un crime, on ne sait pas trop. Je ne dis pas qui s'est suicidé, oui. Qui est mort, qui a été égorgé, pardon. Donc je trouve qu'il y a quand même une invraisemblance là, surtout que jamais, malgré tous ces morts chez deux voisines, la police n'intervienne. Ça, c'est quand même pas très réaliste. Alors c'est vrai que c'est peut-être le seul point sur lequel j'ai des doutes, mais il est quand même important malgré tout.
Bien, donc tu le recommandes aussi.
Je le recommande, oui, mais je dirais la fin devant la salle.
Mais de toute façon, je suis en train de me rendre compte en regardant mes notes qu'il est sorti de l'affiche. En tout cas, je n'ai pas trouvé de séance là dernièrement. Bon, si je vous ai plutôt convaincu, vous pourrez essayer d'aller le voir s'il repasse. C'est Duel d'Olivier Massé de Passe. On enchaîne avec un film d'animation. Il s'agit de Monsieur Link.
Monsieur Link. Une créature gigantesque, 2,40 m de haut, 300 kg.
Je dirais plutôt autour de 285 kilos, pas plus. En fait, ce sont les poils qui me grossissent.
Avec Thierry Lhermitte et Éric Judor.
Il fait chaud ici, non?
Un peu, oui. Il suffit d'ouvrir la fenêtre. Naître.
Ah oui, c'est mieux. Well, I'm on
my way. Le 17 avril.
À l'autre bout de la terre, il y a mes cousins.
La quête de sa famille va devenir une aventure absolument mythique.
Vous avez tué ma grand-mère!
Vite, 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 il faut lui faire du bouche à bouche!
Allez-y, vous êtes l'homme de la situation.
Monsieur Link, film d'animation de Chris Butler, dû au studio Laika. C'est un film qui a nécessité beaucoup de décors, beaucoup de travail aussi, de réalisation de visages. Enfin, j'ai lu que les imprimantes 3D avaient réalisé plus de 2000 visages par semaine, soit au total 106 000 visages, dont je ne sais plus combien pour le héros. Plus de 110 décors, etc. Donc c'est l'histoire d'une créature assez particulière, hein, Monsieur Link, un des derniers vestiges de l'évolution humaine, qui recherche des parents éloignés, qui pour ça va se faire aider d'un explorateur et d'une aventurière. Je ne l'ai pas vu, mais je suis sûre qu'Adrien et Jean-Pierre seront en désaccord. Adrien, bonjour.
Bonjour. C'est un film merveilleux, comme tous les films du studio Laika. C'est incroyable. Là, alors à chaque fois en plus, ils exploitent un style différent. Coraline et l'étrange pouvoir de Norman, c'était le film d'horreur pour enfants. Les Box Trolls, c'était un peu le conte. Kubo, l'armure magique, ça rendait hommage au film japonais. Et là, ça rend hommage aux romans d'aventure de la fin du 19e siècle, type Conan Doyle, mais pas Sherlock Holmes, les aventures du professeur Challenger. Et à Jules Verne, donc c'est génial, il y a de l'inventivité à toutes les scènes, à chaque fois on ne sait pas ce qui va arriver à la scène suivante, en plus on imagine la dose de café qu'ils ont dû avoir pour animer tout ça image par image. Il y a une scène sur le quai d'une gare qui ressemble à un western, c'est merveilleux, enfin c'est fabuleux. Attention, ce n'est pas pour les tout petits. Pour un film d'animation, il y a des morts et les morts meurent vraiment.
Et Jean-Pierre nous dira qui meurt.
Oui, j'ai la liste.
J'adore que Laika puisse faire leur film en toute liberté, mais comme c'est avec l'argent qu'ils récoltent en vendant des Nike, parce que le patron de Laika est le fils du chef de Nike, achetait des Nike pour que Laika nous fasse des très très beaux films. Enfin, ça me gêne toujours un peu.
C'est pas très altermondialiste.
Non, pas du tout, je suis désolé, mais pour Laika, je serais prêt à tout parce que c'est vraiment mon studio préféré, et on sent qu'ils ont vraiment toute la liberté. Et la première scène avec le monstre du Loch Ness est incroyable, mais tout est incroyable. On aimerait revoir le film image par image pour voir tous les petits détails cachés, tellement c'est rigoureux et fin. Voilà, c'est trop beau, c'est merveilleux.
Jean-Pierre, qu'est-ce que tu vas pouvoir dire contre ça?
On ne sait plus quoi dire devant l'enthousiasme d'Adrien, que je partage d'ailleurs, parce que c'est un film très beau, très drôle, très référencé effectivement. Il l'a dit, Jules Verne, le professeur Challenger, tout ça. La créature est extraordinaire. Alors il faut citer le titre anglais, c'est Missing Link, quand même, le maillon manquant, parce que c'est aussi un film sur les gens qui nous ont précédés, les ceux qui vivent à côté. C'est un film sur la différence quand même, notamment vers la fin du film, on va dans un royaume mythique qui ressemble au Shambhala de James Hilton, hein, avec des yétis, tout ça. Et alors c'est très drôle, ça pense bien, c'est très bien animé, on ne sait pas quoi dire, sauf allez-y, allez-y, allez-y. À quoi il faut ajouter qu'il y a quand même, malgré la présence écrasante de ce personnage, il y a quand même une femme, hein, une dure à cuire, là, qui s'appelle Angelina, qui est une femme qui apporte son lot de féminisme peut-être attendu, mais qui est malgré tout utile.
Eh bien, on va y aller, Florence. Hein. On va chercher une séance au Méliès, hein, puisque c'est là que le film passe encore, et on va courir voir ce Monsieur Link. Donc de Chris Butler, qui est toujours à l'affiche. On va enchaîner avec un film américain, film de Jonah Hill, que l'on connaît en tant qu'acteur, et bon, c'est le premier film, là, c'est 90.
Your mouth, stay out of my fucking room, Stevie.
Y'all not supposed to be around here. Get the fuck out.
Hey, the little nigga with the Toys R Us badge, come here.
You can't say nigga, I don't think. You fucking Sheryl Crow looking motherfucker.
This is awesome. I've never been in a car without someone's mom or dad before.
You're so cute.
I feel like at the age before guys become dicks.
90, donc c'est le premier film de Jonah Hill. Il s'intéresse à un jeune garçon, Stevie, 13 ans, qui vit avec une mère souvent absente, un grand frère assez violent avec lui. On est à Los Angeles dans les années 90 et ce jeune Stevie va intégrer une bande de skateurs avec des jeunes qui sont un petit peu plus vieux que lui et qui vont le prendre sous leur aile. Moi, c'est un film qui ne m'a pas beaucoup plu. J'avoue que j'ai pas grand-chose à lui reprocher, en fait, hein, dans le genre. Sauf que je me suis un peu ennuyée. Je suis pas vraiment entrée dans cet univers. Ça m'a laissé assez de marbre. Alors, est-ce que j'aime pas assez le skate ? Est-ce que c'est la bande-son qui ne m'a pas plu ? Est-ce que je ne sais pas. Donc, pour un premier film, je trouve que c'est pas mauvais. C'est pas mal filmé. C'est pas mal monté. Mais voilà, j'ai l'impression d'avoir déjà vu ça 50 000 fois, hein, dans le genre film d'apprentissage avec un jeune garçon qui vit ses premiers émois, etc. Et j'ai l'impression de l'avoir déjà vu en mieux. Donc, c'est pas le film que je vous recommanderais en priorité ce mois-ci. Adrien.
Moi, j'ai beaucoup aimé ce film. J'ai trouvé ça... ça ressemblait à un film de Larry Clark sous antidépresseur, sans sexe et sans vulgarité. Du coup, c'est filmé au format carré. C'est très arty. C'est très beau. C'est très lisse. Ça fait très ciné indépendant états-unien, quoi. On dirait qu'il y a le marqueur Sundance qui s'allume à chaque plan. Mais il y a plusieurs moments dans les situations où le personnage se retrouver, je me suis dit oulala, ne fais pas ça. J'étais vraiment avec lui, avec eux, et en fait j'ai beaucoup aimé ce film. Et je trouve que en ce moment dans le cinéma indépendant du côté de Los Angeles et San Francisco, il y a vraiment des choses intéressantes comme The 90s ou Nous les Coyotes ou Blindspotting, des films qui racontent l'histoire un peu de marginaux qui sont vraiment intéressants. Et j'ai l'impression qu'il y a un mouvement qui est en train de se faire là-bas. Et c'est un film qui m'a beaucoup touché. J'ai beaucoup aimé les blagues qu'il y avait dedans. Ça ressemble un peu au Beau Gosse de Riyad Sattouf, mais
en moins bien. Moi, bah, les Beaux Gosses m'avaient beaucoup fait rire, celui-ci, pas du tout, du tout.
C'est une question de point de vue, mais c'est assez sérieux quand même. C'est un petit peu un Spielberg de la période E.T. En plus vulgaire, quoi. Ça ressemble un peu aux Goonies en un peu plus vulgaire. Voilà, c'est assez mignon, c'est tendre.
Bon, bien écoutez, si Adrien vous a convaincu, 90 de Jonah Hill passe encore à la nef. On va parler d'un film fantastique maintenant. Vous voyez, j'en ai prévu de tous les genres. Il s'agit de Jessica Forever.
Moi, c'est Jessica.
Cet amour, ça a servi à quoi?
C'était ce qu'on avait de plus beau. C'était pour Jessica.
Jessica Forever de Caroline Poggi et Jonathan Vinel est sortie de l'affiche, mais on vous en dit un mot quand même. Jean-Pierre et Adrien l'ont vu. J'avoue que la bande-annonce ne m'inspire pas bien, mais bon, vous allez me dire si j'ai eu tort de ne pas aller le voir. Jessica est une femme donc, qui a pris sous son aile des enfants perdus, hein, des garçons solitaires, orphelins, persécutés, qui sont devenus des monstres. Ensemble, ils vont chercher à créer un monde meilleur. Voilà, moi, ce que j'ai pu lire dans le synopsis. À qui est-ce que je laisse la parole en premier ? Jean-Pierre.
Ah, ben tu as bien fait de pas y aller parce que c'est un film tout à fait nul. On ne sait pas quand ça se passe, quel est le but de l'histoire. Cette fille, là, Jessica, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas quel pouvoir elle a sur ces jeunes qu'on nous présente à la rigueur comme sympathiques, mais qui disent « Oh là là, moi j'ai gorgé une personne tous les deux jours ». Il y en a un qui dit ça, par exemple. C'est difficile de les trouver sympathiques, c'est difficile de les prendre en pitié, même s'ils sont traqués par une société dont on ne sait strictement rien, à part qu'il y a des drones. Bref, tout est nul, tout est ridicule. Je vais vous dire quand même un truc, juste si j'ai le temps. Il y a une séquence où ils sont dans la, en Corse, dans la, comme ça, dans la campagne, et il y en a un qui dit « Oh, il faut instituer des tours de garde, on ne sait pas quelles bêtes peuvent se trouver dans les environs. » Des moustiques tigres, sans doute. Ça dit tout du film.
Merci Jean-Pierre. Adrien.
J'ai adoré ce film.
Ah ah
tiens, je trouve ça vraiment incroyable, l'imagerie que Caroline Poggi et Jonathan Vinel recyclent. D'ailleurs, vous pouvez voir leur court-métrage sur Arte plus 7 en ce moment. Et puisqu'il nous reste les fusils à pompe qui avaient eu l'ours d'or à Berlin, du court-métrage sur YouTube. Et j'adore quoi. C'est un mélange de Xena la guerrière, Daesh et le film pavillonnaire français. Et un peu de jeux vidéo aussi, notamment Metal Gear Solid. Et du coup, on ne sait absolument rien. Ils se font attaquer par des drones. Il y a Jessica qui est habillée en Xena la guerrière, qui a cet harem d'hommes autour d'elle qui la défendent. Et on voit des drones arriver. Et c'est vraiment plastiquement magnifique. La musique est merveilleuse, mais ça s'apparente plus à de l'art contemporain, à des films qu'on pourrait consommer au musée plutôt que dans une salle de cinéma. Mais comme j'adore les porosités entre l'art plastique et le cinéma, ça me fascine. En fait, j'adore la manière dont ils recyclent toute cette imagerie contemporaine d'image. Ça me touche énormément comme genre de cinéma. Je comprends qu'on puisse rester hermétique, mais moi, ça m'a bouleversé comme film.
Eh bien, si Adrien vous a convaincu, essayez de guetter les programmes des petits cinémas de l'agglomération. C'est Jessica Forever de Caroline Poggi et Jonathan Vinel que vous pourrez peut-être revoir. On va passer maintenant à un film palestinien, mais aussi néerlandais, allemand et mexicain. Surtout palestinien, c'est The Reports on Sarah and Salem.
تبلش خدمة جديدة للناس اللي ما بطلع لهم تصريح يدخل القدس راح أعطيك مصاري تشيلهم شو ما بدهم
إيش لي يا عود مش لو أخلصت عليك إذا
بتوخ؟
ما
لفوي تخلبت لخم إذا بتوخ؟
זה היה עם בחור פלסטיני.
יש לי כאלה! מה יש לך, גבר?
הסלולרים שאתה מעביר לבית לחם, החמלים השתמשו בהם.
שוסר.
אני מניש על הרבים מהכוחים. בסמדיני.
The Reports on Sarah and Salem, c'est le deuxième film de Mouayad Alayan, qui est un réalisateur palestinien. Il raconte une histoire d'amour, ou une histoire de sexe d'ailleurs plutôt, entre un homme palestinien et une jeune femme israélienne qui vivent tous les deux à Jérusalem, mais évidemment chacun dans le quartier de sa communauté. Ils sont tous les deux mariés. Elle a un colonel de l'armée israélienne. Lui a une jeune femme enceinte. Mais ils se voient de multiples reprises jusqu'à un jour où ils font une petite excursion à Bethléem et où lors d'une altercation des hommes repèrent le jeune héros Salem et vont essayer de se venger de lui ensuite en l'accusant d'avoir essayé de faire du trafic et pour le compte de la Palestine en plus. Tout cela lance donc une intrigue un peu politique en plus de l'intrigue sentimentale puisque pour s'en sortir, il va être défendu par un grand ponte palestinien, mais qui va lui demander d'écrire un rapport selon lequel il est espion, en effet, ce qui n'est pas le cas en fait. Hein, il a vraiment juste une aventure sexuelle avec cette jeune israélienne, mais il va devoir écrire des faux rapports faisant croire qu'il l'espionne pour essayer de se défendre aux yeux de sa communauté. Je ne sais pas si c'est très clair. Hein. Après, je vais peut-être pas trop vous raconter la suite, mais ça se complique encore un petit peu du côté israélien. Donc l'intrigue est assez complexe, mais se tient. Je trouve qu'il n'y a pas d'incohérence. Je trouve qu'on est tenu en haleine jusqu'au bout. C'est aussi un film assez touchant où on voit deux personnages qui ne sont pas complètement heureux dans leur vie privée, qui essayent de trouver un peu de réconfort ensemble, mais qui vont être rattrapés par ce contexte de guerre. Et j'aime bien là la manière dont le conflit israélo-palestinien intervient dans l'histoire, dont il est montré à travers ces deux destinées personnelles. Je trouve que c'est pas redondant par rapport au dernier film qu'on a vu sur le thème. Et autant les derniers que j'avais pu voir m'avaient laissé un petit peu... sur ma faim, autant celui-ci m'a beaucoup plu. Donc, le rapport de Sarah et Salem. Florence.
Moi aussi, il m'a beaucoup touchée. Donc, ouais, ça fait un peu un Roméo et Juliette des temps modernes.
Oui.
J'ai trouvé que c'était intéressant aussi de voir ce contexte. On voit qu'ils sont dans un environnement très raciste des deux côtés, en fait. Et j'ai trouvé que c'était très bien exprimé. Qu'on voyait vraiment que leur passion, du coup, ne pouvait que déranger, en fait, dans cet univers de règles où ils les enfreignent tous, toutes. Donc, voilà. Et néanmoins, c'est un sujet super glissant. Et j'ai trouvé qu'ils arrivaient à traiter ce sujet politique sans prendre de position. Et j'ai trouvé ça intéressant, du coup, vraiment bien mené. Et j'ai trouvé qu'on voyait vraiment le fait que, eux, c'était en effet juste une histoire de sexe et que même ça, voilà.
Même ça, c'est récupéré par un camp et par
voilà,
l'autre.
C'est ça, ouais.
Et ça peut alimenter le conflit. Donc, on vous le recommande toutes les deux. Alors, j'ai trouvé encore des séances au mois de juin. Il va être programmé au cinéma Le Clap de Lens-en-Vercors, parce que pour les cinémas vraiment de Grenoble, je pense qu'il est sorti de l'affiche. C'est The Reporters on Sarah and Salem de Mouayad Alayan. Nous allons maintenant parler d'un film franco-danois et surtout espagnol, du réalisateur James Rosales. Il s'agit de Petra.
¿Qué tal? Yo soy Petra. Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
Sí. Yo creo que con Jaume no se puede aprender nada.
¿Qué opinas de mí?
¿Como artista?
Como persona.
¿Tu padre cómo es?
Bueno, es complejo. Es alguien que puede ser encantador, como puede ser muy perverso, muy cruel.
¿Cruel?
Sí.
Estoy viendo tu pintura.
¿Y qué te parece?
Está pensada como una terapia para ti, no pensando en el público.
No me gusta Petra.
Creo que te tendrías que ir de aquí en cuanto puedas.
Es que de Jaume no se puede sacar nada bueno.
Te mentí.
Como todos mentimos.
Bon, alors Jean-Pierre nous dira qui s'est fait tuer.
Exactement.
Sans comprendre l'espagnol, j'ai compris perversion et cruel. puisque donc Petra est l'histoire d'une jeune artiste, donc qui doit s'appeler Petra, qui intègre une résidence d'artiste auprès d'un plasticien de renommée internationale qui s'appelle Jaume Navarro. Et assez vite, elle va se rendre compte que cet homme est particulier, donc pervers et cruel, j'imagine, et qu'il fait régner la terreur autour de lui. Mais apparemment, la jeune femme reste parce que... elle est décidée à se rapprocher de la famille de cet artiste. Il ne faut peut-être pas dévoiler pourquoi. Je laisserai Adrien et Jean-Pierre nous le dire ou pas.
Tiens, bien
Adrien.
De toute façon, tu peux révéler ce qui se passe parce qu'il y a un rebondissement de toutes les scènes. Alors, chaque scène, ça appartient à la catégorie de films de maton comme les films mexicains de Regadas, de Amat Escalante ou de Haneke. Et là, sauf qu'au lieu d'être en plan fixe, le réalisateur a essayé d'être original et je me suis demandé si c'était pas une parodie de films de Haneke ou de films de cartel mexicain parce que c'est tout en panoramique. Du coup, il abandonne le plan fixe de ce style de film à tiroir en histoire de famille malsaine et perverse. Va-t-elle se rapprocher de sa famille? Mais aurait-elle des liens avec la famille de Jaume? Suspense. Et il y a un rebondissement vraiment toutes les scènes, c'est typiquement hallucinant. En plus, le film n'est pas raconté dans l'ordre et marche par chapitre, ouais. Comme un roman d'Alexandre Dumas où Petra arrive dans les résidences, où Petra découvre que son cousin et en fait son frère et qu'ils ont couché ensemble, etc., etc. Et il y a tellement de rebondissements, c'en est hallucinant. Mais
c'est
moi,
pas crédible.
C'est assez crédible, mais c'est quand même un peu gros, quoi. Même Raoul Ruiz n'aurait pas osé, je pense, écrire un film comme ça, tellement il y a de rebondissements, mais c'en est quelque peu hallucinant. Et des fois, on nous révèle des trucs et la scène d'après, c'est des trucs qui s'avèrent faux. Et c'est tellement incroyable. Et apparemment, je discutais avec la caissière du Méliès qui me disait que les gens sont traumatisés de ce film. Mais bon, moi, ça m'a pas traumatisé du tout, ça m'a à la limite fait rire parce que c'était tellement incroyable et j'ai beaucoup aimé comment la peinture a été filmée et comment le milieu de l'art contemporain a été décrit, où les gens ne pensent plus à l'argent qu'à l'art, Mais bon, voilà, c'est sympa sans plus.
C'est un peu léger pour faire tout un film.
C'est hyper léger, ouais.
Jean-Pierre.
Bah oui, moi je trouve que malheureusement, même si ces personnages peuvent a priori être intéressants, on n'est jamais touché, on n'est jamais ému, parce qu'effectivement, d'une part, il y a ce montage désynchronisé, on finit par plus rien comprendre, ce qui était avant, ce qui était après. Là, Adrien, tu dis que c'est un film sur l'art contemporain. De très très loin, quoi. Cette jeune femme, on la voit jamais travailler avec son maître. Lui-même, on le voit jamais travailler non plus, sauf qu'on voit quelques statues dans son atelier. Alors tout ça est un peu léger. Et puis le thème principal, tu dis que c'est une histoire d'inceste, de demi-inceste, parce que c'est un demi-frère. Malgré taille, bon, d'accord, alors que, hein, on n'en a rien à foutre aujourd'hui de l'inceste ou pas inceste, on couche avec qui on veut, bon sang. Donc moi, ça m'est complètement passé à côté, et en plus, cette manière de filmer qui peut être élégante au début, quand on arrive à la troisième, à la cinquième, à la dixième séquence, où ces panoramiques nous baladent d'un côté et de l'autre, surtout quand il y a deux personnes qui se parlent. Alors c'est très très lent quand ça va d'une personne à une autre, puis ça revient, il y a un silence entre-temps. Enfin non, je pense qu'on ne peut pas vraiment le recommander.
Florence, nous notons donc de ne pas aller voir Petra de James Rosales qui passe au Méliès. On enchaîne avec l'un des films cannois de notre programmation qui n'a rien obtenu lors de ce dernier festival. C'est le nouveau film de Jim Jarmusch, The Dead Don't Die.
Dans cette ville paisible, une chose horrifique va arriver.
Excusez-moi, c'est fermé.
C'est épouvantable. Probablement la pire chose que j'ai vue.
C'était quoi, plusieurs bêtes sauvages ?
Je pense à des zombies.
Quoi ?
Des zombies mangeurs de chair humaine.
Arrête, c'est pas drôle du tout, c'est vraiment trop flippant.
Ils gravitent autour des activités qu'ils pratiquaient quand ils étaient en vie.
Chardonnay.
Elle vient de dire chardonnay ?
1, 2, 3, 4.
J'ai une certaine confiance en mes capacités à me défendre contre les morts vivants.
C'est ce que je vois.
Excusez-moi.
C'était un beau geste technique. T'as dû être un bon joueur de baseball.
Ben, j'ai joué en Ligue mineure.
Vous l'avez sans doute compris avec la bande-annonce, The Dead Don't Die est un film de zombies, mais un film de zombies burlesque. On sait que Jim Jarmusch aime bien changer de genre, donc là, il s'inscrit vraiment dans un genre très codifié, mais le détourne donc pour en faire plutôt une comédie. Hein. Les zombies envahissent la petite ville de Centerville. C'est un film avec un gros casting, je vous en cite quelques-uns, Bill Murray, Adam Driver, Tilda Swinton, donc composent les acteurs de ce film. Et voilà, il était présenté en ouverture du dernier festival de Cannes, mais n'a rien remporté. Je ne l'ai pas vu, j'ai beaucoup hésité et je crois que vos avis sont partagés. Vous n'allez donc peut-être pas m'aider à faire mon choix. Florence, je te laisse la parole en premier.
Ok. Alors déjà, quand on écoute la bande-annonce, on s'attend à un film de zombies un peu à la Shaun of the Dead. Et en fait, ça part un peu comme ça, mais pas tout à fait. Moi, j'ai trouvé que ça faisait plus une sorte d'hommage en fait à la Quentin Dupieux, parce que c'est vraiment un film sur le non-sens, avec beaucoup d'absurdes. C'est vraiment complètement inscrit dans la pop culture. Donc moi, j'ai trouvé ça très drôle. On a des scènes, par exemple, avec la croque-mort qui est en train de créer ses peintures sur... on a deux cadavres, en fait, et on est en train de s'inspirer de magazines de beauté. Mais elle fait un truc ridicule avec des tas de couleurs. C'est affreux. Et puis, il y a les morts qui commencent à revenir à la vie. Mais ça la gêne dans son maquillage. Enfin, voilà, c'est assez drôle, j'ai trouvé. Après, en effet, on a le casting qui est vraiment très bon, bien qu'extra caricatural. Bill Murray, qui est toujours... je l'adore dans tous ses films, avec sa nonchalance, son flegme. Il y a également des tas de points d'humour qui inscrivent les acteurs dans leur réalité, comme Adam Driver, qui a des gros hommages à Star Wars, par exemple, avec son côté obscur. Enfin bon, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et Tilda Swinton, qui a une tête d'alien, et on ne sait pas trop ce que c'est dans le film. Enfin, c'est vraiment intéressant. Et j'aime bien le fait qu'on n'explique pas tout non plus. Le seul truc, moi, que j'aurais peut-être enlevé, ce serait l'espèce d'explication sur les failles de notre société consumériste, etc. Pour moi, ça, c'était un peu en trop. Mais bon, sinon, moi, j'ai passé un très bon moment. J'ai trouvé ça drôle et Et voilà.
Bon, mais écoute, j'espère que tu as convaincu quelques auditeurs, parce que je crois que Adrien et Jean-Pierre vont œuvrer dans l'autre sens. Adrien.
J'ai pas trouvé ça désagréable, mais j'ai pas trouvé ça génial. En fait, j'avais l'impression de voir Jim Jarmusch et ses potes en train de boire le café et de raconter qu'est-ce qu'ils allaient faire en faisant un film de zombies et se dire ah bah si on refaisait comme Coffee and Cigarette, et en fait c'est Coffee, Cigarette and Zombie. Et voilà, alors là ils ont pas fait un film à sketch, ils ont fait une narration. Mais bon, c'est vraiment du non-sens, mais pas manié avec autant de talent que celle de Quentin Dupieux. Du coup, moi, je suis resté complètement extérieur de ce film et je l'ai regardé avec un ennui poli. Alors, je suis très content que Jim Jarmusch ait les sous de s'éclater avec ses potes. Et voilà, et c'est très bien, ça fait une belle montée des marches. Le casting est parfait, ils sont tous excellents en plus dans le film. Mais moi, ça m'a pas touché, mais peut-être que j'étais pas en état de voir ce film. Si j'étais justement autour d'un café avec des potes à regarder ce film, peut-être que je me serais marré. Mais là, voilà, j'étais tout seul, j'étais un peu triste. Ça m'a fait ni chaud ni froid.
Bon,
voilà.
Jean-Pierre, est-ce que tu l'as vu seul et triste?
Non, mais c'est pareil. Je veux dire, on peut se demander pourquoi ce film, pourquoi Jim Jarmusch l'a fait. Il s'est dit, oh bah tiens, je vais faire un film de zombies, mais je vais faire un peu drôle. Seulement, les zombies, ils sont efficaces quand ils font peur, quand ils font horreur, quand ils sont drôles, ça nous fait plus rien du tout.
Ça peut faire rire, non, quand même? Non.
Avec leur téléphone dans la rue, ils sont marrants, quand même.
Non, si c'est pas marrant du tout, il essaye de faire de l'humour en disant, oui, mais si. L'un flic dit à l'autre, mais comment tu sais tout ça? L'autre, il dit, ah ben parce que j'ai lu le script. Ha ha ha, comme c'est drôle. Je veux dire, on sait qu'il a mis des petites choses comme ça pour essayer de sortir la tête du tonneau, mais ça marche pas du tout, quoi, je suis désolé. Quant à l'interprétation, qu'est-ce qu'on peut en dire? Moi, j'en sais rien, mais... Bill Murray, il est quand même un peu vieux, il s'endort. Adam Driver, moi je trouve que c'est un des plus mauvais acteurs de sa génération du cinéma contemporain. Bref, moi, rendez-nous Romero, rendez-nous La Nuit des Morts Vivants, rendez-nous Zombies, mais celui-là, non, pitié, quoi. Faire l'ouverture de Cannes avec ça, misère.
Alors, si Florence vous a convaincu, moi j'avoue que je suis quand même intriguée. Je me demande si je ne vais pas aller le voir. Hein. The Dead Don't Die de Jim Jarmusch.
Deux fois.
Programmé encore au club et au pâté. On enchaîne avec un film coup de poing apparemment. C'est Tous les dieux du ciel de Quarks.
Question de jour. Ça va être un grand changement, tu vas voir.
Non mais qu'est-ce que vous faites?
Il y a des règles, monsieur Dormel. C'est comme cela que fonctionne la société, avec des règles.
Simon! Reviens ici! Reviens là! Reviens là!
Restez calme et poli et tout se passera bien, croyez-moi.
Mais qu'est-ce que vous allez m'aider? Merde!
Faut pas s'inquiéter, hein.
Il dit que je suis folle.
Je sais que t'es pas folle.
Tout ce qui lui arrive, là, c'est ta faute. Personne viendra te sauver, personne.
Tous les dieux du ciel, c'est le premier film de l'artiste français Quarks. Film qui fait un peu de bruit, qui commence à avoir un bon bouche à oreille, qui ne laisse pas indifférent, en tout cas, de ce que j'en entends dire. Je ne l'ai pas vu, mais Adrien et Jean-Pierre seront en désaccord ou pas, d'ailleurs, sur ce film, qui est interdit aux moins de 12 ans, qui raconte l'histoire de Simon, un trentenaire, qui travaille dans une usine, mais qui vit reclus dans une vieille ferme et qui s'occupe de sa sœur handicapée. Il espère que sa sœur pourrait être sauvée et pour ça il a espoir dans le ciel. Voilà comme c'est formulé dans le synopsis, je ne sais pas si on peut en dévoiler plus. En tout cas le titre dit déjà tous les dieux du ciel. Alors la sauvera-t-il ou non? Jean-Pierre vous le dira. En tout cas, est-ce qu'il faut voir ce film, Jean-Pierre?
Ah ben oui, tout à fait, moi c'est mon coup de cœur, mon coup de poing du mois. Parce que c'est vrai que c'est un sujet que j'ai jamais vu traiter. C'est vrai que c'est un frère donc qui défigure sa petite sœur Estelle, alors qu'il lui avait une dizaine d'années, elle 4 ou 5 ou 6 ans, et il en a un tel remords qu'il la soigne, qu'il la couvre, qui passe sa vie près d'elle, en espérant effectivement, comme le disait Adrien, que le ciel, ou je sais pas quoi, une soucoupe volante ou quelque entité magnifique viendra les sauver. Ce qui est expliqué visuellement dans le film, qui est très très beau. D'ailleurs, on sent que c'est un ancien peintre qui l'a fait, par des vues de l'espace, par des vues du ciel resplendissant, par des vues de la terre prises de loin. Mais ce qui est extraordinaire, surtout, c'est son interprétation, hein, parce que la fille handicapé qu'on retrouve effectivement à l'âge adulte, âgé d'une trentaine d'années, qui est immobile sur son siège, qui est squelettique, qui a un visage complètement déformé. On se dit, oh là, quel maquillage super. Eh ben non. Mélanie Gaïdos, qui a le rôle, c'est effectivement une jeune comédienne, un mannequin en plus, qui souffre d'une maladie génétique rare, la dysplasie ectodermique. Et elle fait des défilés de mode, hein, par exemple. Elle fait des photos. Et là, elle est absolument extraordinaire. Elle est poignante. Elle porte le film sur ses frêles épaules, peut-on dire. Et c'est ça qui donne tout à la fois son originalité, sa force et la très grande émotion qui s'en dégage.
Merci Jean-Pierre. Adrien ?
C'est un film incroyable. J'avais l'impression de voir un film de Kerven et d'Elépine co-réalisé par Christopher Nolan. C'est vraiment complètement fou comme film. Il y a tout qui est justifié, en fait, et il y a toute une imagerie fantastique qui sort. Du coup, il y a des petits hommes gris, il y a les signes comme il y avait dans le film de M. Night Shyamalan, il y a le couvent de bonnes sœurs où on ne sait pas trop si c'est des bonnes sœurs. Enfin, c'est incroyable toute l'imagerie. Il y a même une petite pieuvre qui ressemble à Cthulhu qui va servir pour un gâteau d'anniversaire, et j'ai l'impression que tout est justifié dans ce film à un moment donné. Il y a une vision caméscope qui est faite. Il y a même des fantômes aussi. Une vision caméscope qui est faite et on se dit, ah, c'est moche, pourtant toutes les images du film ont été belles. Et la scène d'après, on comprend pourquoi la petite fille était filmée avec le caméscope, parce que le héros du film, Simon, va faire une vidéo avant de se faire enlever peut-être par les extraterrestres. C'est vraiment un film fabuleux qui nous... En plus, un peu comme La Route de Cormac McCarthy, il y a une scène de viol quand même. Il y a une scène où quelqu'un se fait éclater la tête en gros plan et donner à bouffer au cochon, je ne vous dirai pas qui. Et tout ça passe comme une lettre à la poste, en fait. C'est vraiment incroyable. Et à l'heure où les médias font le buzz autour de l'affaire Vincent Lambert, ce film, je pense, est essentiel et très, très politique. Derrière ses aspects très plastiques, très artistiques et vraiment, vraiment magnifiques, quoi. Il y a des scènes de l'espace qui sont sublimes. Du coup, courez-y en masse, c'est incroyable.
Eh bien, nous irons. C'est Tous les dieux du ciel de Quarks qui passe au cinéma Le Club.
Il faut avoir le cœur bien accroché. Hein.
Oui, interdit au moins de 12 ans d'ailleurs. The Last But Not The Least, le film de Pedro Almodovar, Douleur et Gloire, est notre prochain film.
Cuéntame, Salvador.
Insomnio.
Si no escribes ni ruedas, ¿qué vas a hacer?
Vivir, supongo.
Tienes demasiado tiempo libre para pensar en tus dolencias.
¿Ves a Alberto?
Me alegra que ya no le guardes rencor.
¿Qué haces aquí? Tengo que hablar contigo. La filmoteca ha restaurado sabor. Por eso creo que ahora es justo que la presentemos los dos en la filmoteca.
No te reconozco, Salvador.
Asco. No has sido un buen hijo, hijo mío.
No.
No
quiero ir al colegio, quiero quedarme aquí.
Cuidado, qué niño. Tú eres muy novelero.
No voy a permitir que me humilles otra vez.
Tu tiempo, cabrón, ven aquí.
Sí. Cada película tuya era un acontecimiento en mi vida.
Estoy con Salvador Mayor.
Douleur et gloire, avec ce film, Pedro Almodovar était pour la 6e fois en compétition à Cannes et il en est reparti avec un prix. Ce n'est pas la première fois, c'est le prix d'interprétation qui a été accordé à Antonio Banderas, qui joue le héros de ce film qui s'intègre dans une trilogie, alors non pas parce que les histoires se suivent, mais parce qu'on retrouve des thèmes communs avec notamment un héros qui est réalisateur de films, homosexuel, comme Pedro Almodovar. Là, le héros de ce film, donc incarné par Antonio Banderas, se souvient de plusieurs épisodes de sa vie, son enfance, sa vie avec sa mère, ses premiers émois amoureux. Il retrouve aussi d'anciens amants qui refont surface dans son présent. C'est un film donc qui n'a pas vraiment d'intrigue, mais qui est centré sur ce personnage. ses peurs, ses désirs, en sachant qu'il a plusieurs problèmes de santé et c'est peut-être ça qui le met dans cet état un peu nostalgique, état un petit peu léthargique aussi, on va dire, puisqu'il ne crée plus, hein, trop focalisé sur ses problèmes de santé, ses problèmes de dos, entre autres. C'est un film que j'ai trouvé, moi, très sensible. J'ai trouvé que c'était un très beau portrait d'homme, avec beaucoup de couleurs dans les décors, comme souvent chez Pedro Almodovar, mais pas tant que ça, j'ai pas trouvé que le jeu était flamboyant comme d'habitude. J'ai trouvé que c'était beaucoup plus sobre que la plupart de ces films, où ce sont souvent les femmes d'ailleurs qui sont en tête d'affiche. Et ça m'a beaucoup plu aussi. Voilà, je recommande. Adrien.
C'est un film merveilleux et fabuleux. Tu dis qu'il n'y a pas d'intrigue, mais moi je trouve qu'il y a une multitude d'intrigues. Il y a l'intrigue avec son comédien qui revient sur scène. En plus, un film qui parle de cinéma et de théâtre, mes deux amours, et la scène de théâtre est vraiment merveilleuse. Il y a Antonio Banderas, c'est génial, en réalisateur héroïnomane au bout de tout, en train d'ouvrir les cartons d'invitation au vernissage et à dire non, je vais pas y aller, non, je vais pas aller là. C'est magnifique, la direction d'acteur est sublime, tout est juste. Il n'y a rien de gratuit dans ce film, et surtout les flashbacks qui sont vraiment merveilleux. Et je pense que le dernier plan de ce film est un des plans les plus beaux que j'ai vu de toute ma vie, quoi. Une fin de film et que je me souviendrai, je m'y attendais pas du tout. Et là, à ce compte-là, tous les réalisateurs qui font des twists à la fin de leur film peuvent aller se recoucher, parce que c'est le plus beau twist que j'ai vu de toute ma vie. Et c'est vraiment sublime, quoi. Tout est merveilleux, les tableaux, la manière dont il va se servir d'une aquarelle pour le scénario. Enfin, c'est incroyable le nombre de rebondissements qu'il y a dans ce film, le nombre d'histoires parallèles qu'il y a dans ce film. Et on comprend tout, c'est limpide comme de l'eau de roche, alors que c'est un scénario hyper complexe et tortueux qui fait appel à l'art plastique, au théâtre, au cinéma. C'est incroyable, il y a beaucoup d'autocitations, j'ai adoré.
Ouais, pas si complexe dans le sens où c'est la vie d'un homme. C'est pour ça que je disais qu'il n'y a pas d'intrigue, mais il se passe plein de choses quand même, bien sûr. Florence.
Bon, bah, c'est difficile de passer après toi, Adrien, mais je suis d'accord, hein, néanmoins. Et moi, j'ai trouvé que, pour mettre un peu l'accent sur certaines scènes, le début du film, j'ai beaucoup aimé. Au tout début du film, où ils reviennent sur les notions de géographie et de biologie, où ils expliquent un peu comment il a eu ses apprentissages dans sa vie, et j'ai trouvé que la façon de filmer ces scènes était vraiment magnifique. J'ai vraiment adoré, c'était dans un style très différent.
Avec la carte anatomique.
La carte anatomique, la carte du monde, enfin toutes ces choses-là, j'ai trouvé que c'était vraiment très beau, très bien amené. Voilà, après, en effet, c'est l'histoire de cet homme qui repart à la recherche de son feu sacré pour repartir. Parce qu'on voit bien qu'il est à l'arrêt, justement, cassé comme il est actuellement dans son corps, et comment faire pour se reconstruire. Et je trouve que c'est un film qui est très fort en mélancolie également, mais sans non plus s'apitoyer sur lui-même. C'est ça que j'ai trouvé vraiment subtil. Ça m'a beaucoup plu.
C'est pas du tout larmoyant.
Non.
Bon, eh bien, écoutez, 3 sur 3 pour l'instant. Jean-Pierre, vas-tu jouer les troubles fêtes ?
Non, pas du tout. C'est un très très beau film. Je ne sais pas si c'est le meilleur Almodovar, probablement pas, mais c'est un film effectivement très simple et très riche à la fois, et qui va contre le cliché stupide qui prétend qu'on ne peut créer que dans la douleur. Et là, c'est l'inverse. Quand on a vraiment mal, eh bien, on ne crée plus du tout. Mm-hmm. C'est ça qui est intéressant dans ce film. Alors, c'est vrai, Almodovar dit « Ce film est-il le reflet de ma vie ?» Non. Eh oui, absolument. Et ça, je veux dire, ça ajoute quelque chose si on connaît bien et Almodovar et sa filmographie, mais ça gêne pas du tout si on les connaît pas. C'est un film effectivement sur la mémoire, et la mémoire, qu'est-ce qui reste de la mémoire? C'est souvent des images, et ce film le reflète bien, parce qu'il y a effectivement de magnifiques images, des tableaux, comme Adrien l'a dit, ces planches anatomiques assez drôles où on revisite son corps par l'intérieur, sans oublier un générique magnifique avec des peintures qui coulent là,
oui,
comme
c'est
ça,
beau, ça.
Qui sont très très, très belles. On sait qu'Almodovar a donné lui-même certains objets et meubles de son vrai appartement pour les remettre dans les décors.
Apparemment, c'est une reconstitution de son appartement.
Voilà. Donc, effectivement, il n'y a rien à dire, sauf qu'il faut y aller. Et c'est un film aussi tendre et plein de vie, quoi. C'est un film, en fait, sur la vie, point à la ligne.
Eh bien, tout est dit. Nous vous incitons à aller le voir, Douleur et gloire de Pedro Almodovar, qui est projeté encore au Méliès et au Pathé. On a tenu le rythme et nous vous avons parlé de 13 films. Nous vous retrouverons encore au mois de juin pour les films sortis entre la fin mai et la mi-juin. En attendant, nous vous souhaitons à tous de bonnes projections. Merci à tous d'avoir été autour de cette table pour débattre. Et donc, rendez-vous le mois prochain sur Radio Campus Grenoble.
Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension.
du suspense. De l'émotion. De l'humour. Sine qua non du cinéma.